11h05 sur France Inter. Je vous l'annonce officiellement. On va tous y passer. Invité de cette émission, un chanteur, et pas n'importe lequel, un chanteur qui, me semble-t-il, a tout compris à la vie. Le savant du jour est historien, spécialiste de l'histoire britannique et américaine. Il s'agit de Lorik Enton. Il publie un livre sur l'histoire religieuse des États-Unis et se demande si avec Mitt Romney, un mormon est sur le point de prendre le pouvoir à la Maison Blanche. Et pour les accueillir, je serai entouré de mes camarades humoristes que je vous présente sans plus tarder. Il connaît aussi bien l'œuvre de Nietzsche que celle de Clara Morgan. Mesdames et messieurs, c'est Walter. L'hiver est arrivé, elle rappelle à toutes qu'il faut passer à une texture de crème hydratante beaucoup plus onctueuse. Mesdames et messieurs, Sonny Chan. Elle dit que linoléum, c'est souvent moche, mais ça évite de se prendre les pieds dans le tapis. Mesdames et messieurs, Michel Guigon. Miss Cendrillon, Miss Carabos, Delphine McCarthy. Et enfin, le gibier et sa potence, devinez qui est qui. L'immense Daniel Morin et le fabuleux Richard Larnac. Mes camarades humoristes nous rejoignent en direct du studio 106 de la Maison de la Radio devant un public en délire. Ils ont rejoint leur micro. Je peux donc leur donner la parole pour donner un indice aux auditeurs de France Inter. Vous avez croisé notre invité. Alors un petit indice, Delphine.
Alors comme Johnny, vous payez vos impôts en vendant des lunettes.
D'accord, vous lui parlez à lui, parce
oui,
qu'il est derrière,
parle,
vous savez qu'il vous entend. Hein. Walter, un indice.
Alors Charlemagne avait la tenue longue et la barbe fleurie. Lui, c'est l'inverse.
Okay. Sonny Chan.
Ses chemises sont aussi colorées que mes culottes petit bateau.
Daniel Morin.
C'est le chanteur français qui probablement a la pire prononciation en anglais quand il chante. Personne n'a oublié son « oh yeah ».
Pas mal, c'est un bon indice. Alors, Michel Guigon.
Il a fait centrale, mais je ne sais plus si c'est la prison ou la grande école. En tout cas, il s'en est échappé. Oh yeah.
Il va nous dire dans un instant. Je vous le disais tout à l'heure, notre invité semble avoir tout compris à la vie. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Il a fait des choix dans l'existence qui devraient parfois ébranler nos principes et nos convictions. Après un énorme succès dans les années 60, il décide d'abandonner sa carrière de chanteur en 1974. Depuis, il passe les deux tiers de l'année sur son bateau au soleil et flirte avec les plus beaux paysages de la planète. C'est sans doute pour ça qu'il a le sourire accroché aux lèvres lorsqu'il vient nous revoir dans notre grisaille pour nous faire rêver et nous faire réfléchir parfois. Il revient cette fois avec un nouveau livre et un nouvel album, le premier depuis 25 ans, où il nous parle notamment de la prostitution, mais aussi de la nudité et du cannabis. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à l'unique Antoine. Bonjour Antoine. Antoine qui nous rejoint en direct du studio 106. On va tous y passer en direct sur France Inter. Antoine va voir le public en délire. Et comme nous sommes en direct, je vous laisse rejoindre votre siège. Un album, c'est le premier depuis 25 ans. Installez-vous correctement.
C'est moi qui suis au centre de l'action.
Ouais, exactement.
C'est effrayant, ça.
Vous êtes toujours un petit peu en marge, vous êtes mis un peu à l'écart. Vous êtes là sans être là, on a bien compris le principe hein, depuis quelques années. Mais là, vous êtes au milieu.
Formidable.
Ça on vous tient, on vous tient.
Je suis coincé, je suis coincé.
Comment vous vous sentez?
Ben, je me sens très bien, il fait un peu frais dehors. J'ai fait une rencontre très sympathique ce matin, la personne de la conductrice du taxi qui m'a amené ici. On a parlé longuement, c'était très très sympathique. Et puis, oui. Donc j'aimerais bien parler avec vous tous, chacun séparément, ça, on n'aura peut-être pas le temps pendant l'émission, mais on va essayer, j'espère qu'ils vont être bons. Voilà.
C'est bien, vous leur mettez la pression, vous avez raison, ils ne sont jamais meilleurs. Alors comme je vous sentais bien, il y a cette tradition d'hospitalité. Oui. Décidément, il faut que je fasse attention quand je suis fatigué, ça fait deux fois. Hein.
Non, c'est... Une tradition en fin de semaine, c'était vous qui avez besoin d'être hospitalisé, mon petit Lopez.
Pour aller me reposer. Mais écoutez, une tradition d'hospitalité, vous pouvez entendre un mot gentil de la part de qui vous voulez, je vous laisse choisir. Au faciès, j'adore cette idée.
Alors, un mot gentil. Eh ben, écoute, on va commencer par
Daniel Morin.
Daniel Morin.
C'est quand je dis faciès en général, c'est vous. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi.
Je vais demander un mot gentil à lui parce que je sais pas si après il va être gentil dans sa chronique.
Je suis gentil tout le temps et je vais vous le prouver tout de suite.
Alors vas-y.
Antoine, à chaque fois qu'on vous voit, on a l'impression que vous sortez à peine de Koh-Lanta. Et pourtant, vous êtes sympathique. Chapeau, respect.
Merci.
Allez, un autre mot.
Alors, notre ami de Hong Kong, Ni Hao Ma.
Ni hao, ni hao. Je parle cantonais, pas mandarin.
Appelle mandarin. Ah oui, vous parlez cantonais. Moi, je suis nul en cantonais, alors donc.
Je trouve en tout cas que c'est vraiment un beau geste pour la planète d'arrêter de se doucher, de laver ses cheveux.
Le compliment de Sonny Chan. C'est de la gratitude, hein. Elle dit merci. Elle vous dit merci.
Si c'est ça les compliments, ça va être quoi les critiques?
Alors, un mot, Michel, allez.
Alors, Delphine. Notre ami, Stéphane, comment Stéphanie?
Delphine.
Delphine.
Alors, Antoine... Delphine. Vous pouvez l'appeler Stéphanie, oui, si vous voulez.
Alors, Stéphanie, Delphine, vas-y.
Merci. Vous avez une magnifique barbe, et j'adore les barbes fournies, parce qu'on trouve toujours quelque chose à grignoter à l'intérieur.
Oui, c'est ça. J'ai, en général, le menu des trois jours précédents dans voilà. la barbe, comme ça.
Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, vous revenez avec un livre qui s'appelle « Délivrez-nous des dogmes », et je trouve magnifique, parce qu'effectivement, vous allez l'expliquer, il se trouve que c'est en français, mais ça marche pour tous les peuples du monde. On va dire qu'on a des particularités, mais effectivement, de ces dogmes. Vous donnez une image très, très jolie, d'ailleurs. Vous parlez de ces pierres qui sont au milieu du torrent.
Oui, le dogme, c'est, hein? C'est comme un rocher au milieu d'un torrent, et on s'accroche à ce rocher parce qu'on a peur de ce qui se passe, on a peur d'être emporté, alors qu'en fait, et le rocher est glissant, on a beaucoup de mal, donc on n'arrive pas à grand-chose, alors que si on se laisse aller, peut-être qu'on va atteindre des rivages enchantés, des îles paradisiaques, et c'est un petit peu c'est l'image du livre. Quoi.
Bon, en tout cas, dans votre bouche, ça a du poids, il y a une vraie légitimité. Et puis, il y a un album, alors ça, c'est extraordinaire, 25 ans sans faire d'album, et là, on sait pas si vous après, vous nous le raconterez tout à l'heure, mais effectivement, c'est très très chouette. Je vous le dis franchement, c'est un très très bel album qui s'écoute avec plaisir. Et donc, on se dit, mais pourquoi il a attendu aussi longtemps ?
Ben, j'ai attendu aussi longtemps parce que je suis tombé dans l'image. C'est comme vous.
Documentaire.
Dans le documentaire, c'est-à-dire qu'en 87, j'ai enregistré mon dernier album qui était Touché pas à la mer. Et puis là-dessus, dès 89, j'ai écrit des livres, publié des livres de photos qui m'ont amené chez Gallimard, donc chez Gallimard, puis La Martinière, puis de nouveau Gallimard. Et puis ça m'a amené à réaliser des films également. À l'heure actuelle, les gens m'imaginent dans un hamac,
vous êtes fort, vous avez
dans les îles lointaines et tout. Et en fait, j'ai produit sans doute plus de livres et de films en 20 ans que ceux qui sont restés ici. Quoi. J'ai produit, réalisé 30 documentaires. Le nouveau, le dernier, vous ne l'avez pas encore parce qu'il paraît dans quelques jours, il est consacré au parc de l'Ouest américain, avec des merveilles, il sort dans quelques jours, toujours dans la même maison d'édition depuis 20 ans, chez Warner. Et celui-là parle des merveilles Yellowstone, Monument Valley, Grand Canyon, etc.
Je vous dis, vous avez tout compris à la vie. Voilà, je veux avoir votre vie. Je vous jure qu'on en parlera juste après l'antenne. Vous allez m'expliquer comment on fait pour pouvoir rester, travailler, etc. Et en même temps, passer sa vie dans des endroits merveilleux. Alors, Delphine McCarthy, c'est la deuxième fois qu'elle vient ici. Je peux vous dire qu'elle est un peu intimidée. Mais il se trouve qu'elle a un service à vous demander, mesdames, messieurs.
Allez-y, Delphine.
Delphine McCarthy.
Alors, Antoine, est-ce que je peux vous demander une faveur? Une bonne fois pour toutes, prenez rendez-vous chez Jacques Desange et allez vous faire tondre.
Pitié.
Non, mais tondre, pas parce que vous avez collaboré avec l'ennemi. Non, non. Tondre, c'est pour votre bien, pour qu'on arrête une fois pour toutes de vous balancer. Alors Antoine, quand est-ce que tu vas te faire couper les cheveux? Mon Dieu, mais quelle angoisse de s'entendre répéter la même blague pourrie depuis tant d'années.
Remarquez, c'est ce que vous faites là. Hein.
Mais vous savez...
Ça s'appelle une mise en abîme, Antoine. Voilà.
Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul, Antoine, à vivre ce calvaire. Hein. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes là à vous plaindre, j'en peux plus. Mais bon Dieu, un peu de décence, mon vieux. Vous croyez qu'il se plaint, Elie Semoun, quand pour la 500e fois de la journée, on lui dit « Merci ». Non, il ne se plaint pas, lui. Il prend sur lui, il fait semblant de sourire, puis ensuite, il se cache pour pleurer. Michael Vendetta, par exemple, à qui on demande « Alors, ce BEPC, c'est bon ce coup-ci ?»
Vous savez qui c'est?
Oui,
j'ai entendu parler. C'est arrivé jusque-là parce que, sans vous couper la parole, on m'avait...
C'est ce que vous faites, monde, hein
dans... Non, c'est lui
c'est
qui a coupé.
C'est une mise en abîme.
C'est lui qui a coupé, donc c'est moi qui cause, là, maintenant. On m'a un jour téléphoné au bout du monde, dans un lagon de rêve total, et c'est vrai, dans la nuit, avec le décalage horaire, pour me demander de participer à la ferme célébrité, où j'aurais eu le plaisir d'être avec Monsieur Vendetta. Alors,
j'ai pour dit, faire quel animal, Antoine?
Je ne l'ai pas fait. Comment, pardon?
Pour faire quel animal?
J'allais faire, le kangourou, la girafe ou le koala, au choix.
Et juste une phrase, oui ou non, vous avez hésité?
Pas une seconde, non. Pas une seconde.
Donc, si vous savez qui est Michael Vendetta, c'est que la Polynésie française est beaucoup moins bien protégée que je ne le pensais.
Non, j'ai un téléphone satellite, j'ai reçu une information comme ça.
Et que dire de Jean-Pierre Foucault qui, par exemple, flâne chez le poissonnier, hésite entre une dorade et un flétan pour finalement choisir des pavés de saumon, parce qu'il se dit que c'est plus facile à cuisiner le saumon. Je pense que vous êtes d'accord, Antoine.
Ah, le dos de cabillaud, je préfère, moi.
Ouais, mais le dos de saumon, vous savez, c'est plus simple. Le bon petit filet, c'est hop, 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 un petit aller-retour sur la poêle, je te mets une pointe de sauce soja, quelques graines de sésame, vas-y que je t'embrouille, tous les invités, ils ont la
Attends, j'arrive pas à tout noter.
On note les recettes de Delphine.
Alors qu'en fait, c'est qu'une pauvre recette Castor Junior et que. Merde, oui. Jean-Pierre Foucault, pardon. Oui, donc finalement, il choisit le saumon, et là, la poissonnière, très contente d'elle, lui dit c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Vous pensez qu'il fait quoi, Jean-Pierre? Vous pensez qu'il vient, comme vous, se plaindre, gémir sur France Inter? Bah non, il prend sur lui, il sourit à la poissonnière et puis il s'en va. Et puis saoulé, il balance le saumon, se dirige vers la boucherie pour s'acheter finalement un rôti. Mais là, il hésite parce que cette semaine, il y a de la promo sur l'agneau. Alors rôti, agneau, rôti, bon forcément ça recommence. Bon, finalement, il mangera demain. Et même ici, au sein même de cette équipe, j'étais témoin d'une attaque d'un des chroniqueurs qui lui a demandé si c'était son dernier choix. Je ne vous dirai pas qui. Eh bien, il a pris sur lui, il a fait un bras d'honneur à Daniel Morin. Et les auditeurs n'ont vu que du feu.
Il a pris des risques.
Oui, je sais qu'il a. J'ai entendu. Il a critiqué. C'est toi qui.
Ah non.
C'est toi qui l'a critiqué, Jean-Pierre Foucault.
Parce non, c'était Guillaume Meurice.
C'était Guillaume Meurice parce que.
C'est un duel.
Il disait du mal de,
des
enfoirés
des
comme enfoirés. Ça.
Et donc on a vu Jean-Pierre Foucault en colère pour la première fois.
Dire du mal des enfoirés, c'est vraiment pas sympa. Voilà.
Donc vous n'êtes pas le seul à souffrir, Antoine. Sachez-le. D'ailleurs, vous l'ignorez probablement, mais à l'instant même, vous côtoyez un homme en grande souffrance qui fait un énorme travail sur lui-même pour paraître serein. Tournez-vous sur votre droite, regardez cet homme, oui, Frédéric Lopez, oui, sous son air bienveillant, regardez bien, il est à bout. Observez ses mains, elles tremblent, il sue à grosses gouttes, il est moite, yirk. Il se retient, il prend sur lui parce qu'au fond de son âme, il est boursouflé de jalousie. Car vous, Antoine, oui, vous, vous partagez avec cet homme la même passion des voyages. Mais la différence, c'est que vous, Antoine, oui, vous, vous n'êtes pas obligé de vous coltiner des people quand vous êtes au bout du monde.
Hein? Très joli.
Parce qu'un trait qu'on n'est pas à la compagnie de Stevie, on va pas se mentir, ça n'a pas la même saveur. Bah oui, pendant que vous, Antoine, vous dissertez tranquillement avec un guerrier maori, Frédéric, lui, est au pied du Kilimandjaro, il admire les Maasai avec un bris sortefeux, bouleversé par tant de beauté, qui lui murmure « Tu vois, Fredo, quand je vois ça, je me dis que j'avais raison, regarde-les, ils sont tellement mieux chez eux que chez nous. » Pendant que vous, Antoine, vous débarquez dans une crique avec en fond sonore le cri de l'albatros à sourcils noirs, Frédéric, lui, est au milieu de la forêt amazonienne avec Sami Nasseri, qui vient de vivre sa première expérience chamanique et qui pleure toutes les larmes de son corps en mon fret. Je sais pas ce qui m'arrive, je me sens transformée, j'ai lâché prise. Putain, mec, je suis tellement heureux. Je crois que je vais te péter les dents, tu m'en veux pas. Alors soyez bienveillants, respectez cet homme et sa souffrance. D'ailleurs, respectez-nous tous, arrêtez de nous éclabousser avec votre bonheur insolent, c'est moche. Vous pouvez pas avoir des problèmes comme nous, je sais pas, une dent qui se déchausse, une petite mycose, non, je sais pas, non. Nous sommes normaux, nous ne passons pas notre vie au paradis. Notre seule chance de vivre au paradis à nous, c'est de crever. Et encore, le paradis, c'est seulement si on a été gentil, si on n'a pas volé l'orange du marchand, si on n'a pas trop picolé, fumé, bref, si on a eu une vie bien bien chiante. Tiens, en parlant de fumée, il paraît que vous êtes favorable à la vente du cannabis. Bah, tu m'étonnes qu'il y est favorable. C'est très bien que c'est la seule façon de nous calmer. Hein. Bah, c'est vrai qu'après 3 pétards, ma vie semble beaucoup moins dure. J'ai moins envie de vous étrangler. Tiens, ce matin, pour venir, pour me préparer à vous voir, bah, je m'en suis roulé un bon gros. J'ai pris 2 Lexomil, 3 litres de tisane. J'ai écouté 2 discours de François Hollande. J'ai fait l'amour 10 fois en 1 minute à Richard Lornac. Et pourtant, rien à faire. Non, il a rien senti, regardez.
D'habitude, il fait non, là, il dit rien.
Il a juste fait oh. Non, bah, rien ne m'a calmé. Je vous envie, je vous jalouse, je vous déteste. Bref, bah, je vous aime, quoi. Voilà, vous êtes contents, c'est dit. Et je vous aime d'autant plus qu'hier soir, en se couchant, mon petit garçon m'a dit tu sais, maman, moi, plus tard, j'ai pas envie de travailler. Non, quand je serai grand, je veux faire Antoine comme métier.
C'est un bon métier.
Delphine McCarthy. Merci, Delphine. Est-ce qu'il y a un petit commentaire? C'est vrai que. Vous êtes plus que conscient de l'image que vous véhiculez, puisque que vous soyez chez Michel Drucker ou dans toutes les émissions, on est ravis de vous recevoir. C'est que vous, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez, enfin vous êtes conscient de ça, mais qu'est-ce que vous pensez que vous apportez dans la tête du public lorsque vous apparaissez quelque part à la radio ou à la télévision?
Ben, il faudrait peut-être leur demander au public qui est là.
Eh ben, j'y vais, vous savez quoi? Je me dirige directement tout droit vers Marie-Claude, 82 ans. Quand vous voyez Antoine, ça vous inspire quoi, Marie-Claude?
Bonjour, Marie-Claude.
C'est l'énergie que mon mari et moi, nous avons toujours aimé en lui, puisqu'on a toujours eu des bateaux. Et pour moi, il est un modèle de liberté, et il a fait ce qu'il voulait faire dans la vie, tout en travaillant. Alors, je pense que c'est un exemple absolument rare.
Un exemple à suivre, Antoine, de la part de Marie-Claude. Mesdames, messieurs, c'est un
applaudissement. Merci, Marie-Claude.
Elle a bien résumé.
Je suis touché.
Donc, qu'est-ce que vous pensez vous incarner pour les gens, alors?
Ben, peut-être qu'ils ont tous, au fond d'eux, ils ont certainement tous, au fond d'eux, une envie de faire quelque chose, de prendre une liberté, de s'éloigner et tout. Et moi, dans une certaine mesure, je l'ai fait, quoi. J'étais chanteur populaire avec des succès et des bides, hein. J'en ai eu plus d'un des bides.
Un jour,
il y a un bide plus gros qu'un autre qui m'a filé un coup de pied au derrière et qui m'a aidé à prendre ma distance comme ça. Ensuite, je peux pas nier que j'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de privilèges, de chances, de rencontres. On m'a proposé on en parlera dans ma biographie express tout à l'heure. On m'a proposé vraiment des portes, des clés. On m'a proposé des clés, je suis tombé au bon moment.
Un exemple.
Et puis, par exemple, je suis arrivé à Rio de Janeiro, en solitaire, la première traversée, au bout d'un an et demi de voyage. J'avais écrit des milliers de pages à titre personnel sur mon bateau, parce que pendant les longues traversées en solitaire, on a du temps, on sait pas trop quoi faire. Et, j'arrive, il y avait une lettre qui m'attendait d'un éditeur qui me proposait d'écrire un livre. Je lui dis, je vais pas écrire un livre, je vais en écrire au moins 3 parce que j'ai beaucoup écrit. Et ça a commencé comme ça. Et tout au long de ma vie, j'ai eu la chance d'avoir des événements comme ça, quoi. Donc, c'est un privilège, j'en suis sûr et tout. Et je me dis que si, l'immense gentillesse. Vous avez témoigné, Marie-Claude, et puis la grande tendresse, et puis l'espèce d'estime que le public me voue est si grande. Et bien moi, j'ai envie de, quelque part, d'aider d'une certaine façon en leur apportant du rêve ou en apportant une réflexion sur un sujet qui me paraît important.
Par Alors, exemple. On va en parler, parce que de la réflexion, il y en a dans votre livre. Il y a un livre, Délivrez-nous des dogmes, et un nouvel album, on l'a dit depuis 25 ans, Demain loin. Auparavant, les 5 mots que vous allez devoir placer dans la conversation pendant les 5 prochaines minutes.
Je peux les noter ?
Oui, tout à fait. C'est Monsieur Previously qui est derrière vous qui va vous les donner.
Ah,
Monsieur
bah,
Previously.
Dit. Monsieur
Allez-y.
Previously.
Bonjour, Antoine.
Bonjour, Monsieur Previously.
Alors, les 5 mots sont. Bacula, excès, panda, catalogue et inassouvi. Bon courage.
C'est intéressant.
Allez, c'est parti. Alors Antoine, dans ce livre, Délivrez-nous des dogmes. D'abord, vous parlez, c'est très drôle, vous démarrez sur cette histoire des Français qui s'embêtent à chaque fois lorsqu'il y a un film ou un documentaire avec des pingouins, comme on dit en anglais. Ben, nous, on dit, on ne sait pas s'il veut dire pingouin ou manchot. Pourquoi vous démarrez par ce petit exemple ?
Parce que c'est un petit dogme gentil qui fait de mal à personne. Ça n'empêche pas les pingouins de dormir, hein, en particulier. Mais c'est que... En France, sitôt que vous avez quelqu'un d'un peu scientifique, vous lui dites « Je suis allé voir, j'étais dans l'Antarctique et j'ai vu des pingouins », il vous dit « Ah ! Non, 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 ce sont des manchots. Dans l'hémisphère sud, ce sont des manchots. Dans l'hémisphère nord, ce sont des pingouins. » Et vous allez dans tout autre pays non francophone au monde, le problème n'existe pas, il n'y a que des pingouins. Pingouins, pingouini, pingouinos.
Et alors, so what ? Où est-ce que vous voulez en venir ?
Eh bien, ça veut dire que, bon, en deux mots, c'est un dogme qui a été créé par la société scientifique, comme on s'appelle en française, là, l'Académie des sciences, voilà, il y a 2 siècles à peu près, qui a décidé que les pingouins de l'hémisphère nord, c'était des pingouins, ceux du sud, c'était les manchots. Le problème, c'est que dans l'hémisphère nord, eh ben, le dernier pingouin a été mangé en 1840. Donc, en fait... Pour les francophones, il n'existe plus de pingouins sur cette planète, ce qui fait bien rigoler les gens des autres pays, quoi. Tout ça pour dire que il y a des dogmes comme ça, des croyances, celui-là est un petit dogme, bien bénin, mais qui vous compliquent la vie, là c'est une complication un peu grave, mais qui vous compliquent la vie alors que plein de pays autour, tout le reste du monde, ben, n'a pas ce dogme, quoi.
Vous pensez que les Français se compliquent la vie ?
Les Français, ben pas que les Français, c'est un peu dans tous les pays, quoi. Chacun d'entre nous, vous parlez, on disait l'image du dogme, là, on s'accroche à un truc, à une croyance. Vous êtes de Hong Kong, mais c'est pas loin, Singapour. Singapour, par exemple, a un autre dogme que j'appelle dans le livre le chewing dogme. Chewing dogme, c'est qu'un jour, il y a eu
C'est interdit.
Il y a eu une panique morale à Singapour. Il y a eu quelqu'un qui avait mis un chewing-gum sur un détecteur d'alarme d'un métro. Ça a créé un accident. Et depuis, ils ont interdit le chewing-gum à Singapour. Mmh. Alors, c'est vrai, quand on voit qu'il y en a
dans la rue, on ne peut pas mâcher un chewing-gum.
On ne peut pas.
On peut pas.
On
peut
Mais
pas.
Singapour est aussi... appelé par les Asiatiques la Suisse asiatique. Oui. Donc, ce n'est pas étonnant.
C'est un pays très dirigiste. Il y a quelques pays très dirigistes comme ça, quoi. Donc, les dogmes, dans ce livre, j'aborde des dogmes de plus en plus précis qui concernent de différentes choses, l'orthographe. Et puis, j'aborde un petit peu la sexualité avec la nudité, plutôt. Parce que,
vous avez une jolie image sur la nudité. Vous vous rappelez de vous, à l'âge de 10 ans, en train de vous regarder dans le miroir, nu.
Et je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de si honteux le corps qu'il faille le cacher, quoi ? Pourquoi ?
Mais vous avez raison. Allez hop, tout ça
poil. Non, je me posais la question. Et puis, plus tard, j'ai vu arriver l'arrivée des années 60, 70. Où on
Mais
sait,
des micro-pénis
Oui, non, c'est pas ça le problème. La taille du pénis n'a aucune importance.
Vous dites ça parce que vous êtes chanceux.
Ou ça vous rassure. Voilà.
Donc, j'ai vu arriver petit à petit des libérations. Des libérations. Ah. Des libérations. Le fait, si vous vous rappelez, John Lennon et Yoko Ono sur la couverture de Two Virgins.
J'étais pas né.
Tout nu. Oui, c'est possible, vous avez peut-être vu le disque. Ou bien Hair, ou bien les femmes, tout d'un coup, étaient libérées du soutien-gorge, du haut du maillot, étaient de cette obligation.
Mais pas de la gravité.
Que j'ai toujours trouvé sexiste. Et puis, petit à petit, on a vu des choses se refermer comme ça. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai eu envie de parler. Et sur la nudité, je cite toujours, Mark Twain qui disait « Si le bon Dieu voulait que nous vivions nus, ben, il nous ferait naître nus. »
J'adore. Voilà.
Il faut 2 secondes pour réfléchir.
Non, vous inquiétez pas, tout le monde a compris. Et effectivement, vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de retour de puritanisme, mais on va en parler tout à l'heure avec l'historien, puisqu'il va nous parler des États-Unis. Et puis alors, pour faire la transition avec l'album, c'est le sujet commun, il n'y en a qu'un seul, c'est les arts du lit. C'est une formule que vous avez inventée, les arts du lit.
Les arts du lit,
vous voyez ce que ça veut dire, les arts du lit, pour vous, Sonny Chan ou Walter quand il...
Je change mes draps tous les 3 jours.
Walter, vous entendez quoi dans les arts ?
Les arts du lit, c'est quand en Espagne, et que, voilà, il y a des sauriens dans la couchette, il faut les.
Les lézards, oui.
Les lézards du lit. C'est un jeu de mots.
Ça, c'est les sauriens, j'avais pas compris.
Oui,
les arts du lit.
Le saurien et l'historien.
C'est les cabrioles.
Oui, c'est la cabrelle. Non, les arts du lit, pour moi, c'est... un jour, j'étais, il y a un an à peu près, invité à une grande manifestation de l'art culinaire où on voyait décorer et honorer des gens pour leur passion dans le domaine de la gastronomie. Hein, c'était des grands chefs, des artisans passionnés. Et puis, ils étaient vraiment honorés et tout ça. Et je me disais, mais la gourmandise pour la religion, c'était un des 7 péchés capitaux. C'était vraiment un gros péché. Il y a toujours le carême, il y a toujours le ramadan, il y a toujours des choses comme ça, la gourmandise. C'est stigmatisé. Et pourquoi un autre des péchés capitaux est-il si stigmatisé? Pourquoi un autre qui est extrêmement condamné chez nous, en France en particulier, pourquoi il n'y aurait pas, comme les arts de la table, les arts du lit?
Pour récompenser qui alors? Les gens qui sont forts en sexe?
C'est-à-dire que, attention, tout de suite, je vais dire, non, les gens qui pratiquent de leur plein gré, bien sûr, je dis tout de suite, toute coercition, tout travail forcé est à totalement condamner et bannir. Oh. Mais les gens qui ont choisi ce que j'appelle, moi, joliment, le commerce de l'amour, moi, je rêve, je suis un peu utopique, un peu utopiste, mais j'ai la sensation que leur art pourrait être aussi respecté que les arts de la table.
Donc les mots sont moins jolis, mais c'est vrai que du coup, sociétalement parlant, vous défendez la prostitution.
Je défends la prostitution librement choisi. Encore une fois, nous avons des lois en France pour lutter contre tout ce qui est forcé, et ces lois, il faut vraiment les appliquer. Mais je crois que contrairement à une espèce de croisade morale qui existe depuis quelques dizaines d'années, il y a un nombre bien supérieur à ce que l'on dit de personnes qui ont choisi pour toutes sortes de raisons, en particulier pour certaines, pas pour le plaisir forcément, mais parce que c'est la crise, parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autre travail. Ce matin, j'étais, je vous disais, avec une adorable chauffeuse de taxi, ne faites pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît.
Mais j'ai rien dit.
Quelqu'un de tout à fait charmant, une dame qui avait un diplôme, un travail bien, et qui a perdu son travail il y a 4 ans. Et puis, elle est devenue chauffeur de taxi, parce qu'il fallait qu'elle élève son enfant et tout. Elle a choisi ça. Il y a des gens qui lui disent, vous vous rendez compte, vous êtes diplômé, c'est indigne d'être chauffeur de taxi. Et dans le travail du sexe, il y a beaucoup de gens qui ont choisi pour des raisons comparables. Et on vient leur dire, ah non, ce que vous faites est indigne, c'est le sexe rémunéré, c'est à bannir, c'est toujours une violence faite aux femmes. Alors je me suis élevé contre ça, parce que je pense que, bien débarrassé de toutes ces laideurs, le travail du sexe pourrait être un bien dans notre société démocratique.
Moi, je suis révolté quand je vois les montants, c'est bas.
Vous dites, pardon ?
Les tarifs, elle trouve que les tarifs sont bas.
C'est variable. Vous savez qu'il y a, dans le domaine...
la grille des tarifs, par Antoine. En zone pacifique.
Ça dépend s'il y a des syndicats et tout ça. Mais en tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'on est super à la bourre et ça vaut le coup qu'on en débatte tout à l'heure.
Voilà, c'est ça que je voulais dire, donc, c'est que si on se lance là-dedans, on a pas la journée entière.
Voilà, on va y revenir, on va passer à la pratique et tout va s'organiser. Mais en tout cas, pour l'instant, je voulais vous annoncer officiellement que vous avez totalement perdu ce jeu, puisque vous n'avez passé aucun des mots.
J'adore ça.
Donc, on ne vous applaudit pas, mais par contre, vous avez un gage qui est le même que celui qui ont gagné.
J'ai cru comprendre que c'était le même. Une minute
d'Antoine dans le fauteuil de Monsieur Previously.
Salut, Antoine. Installez-vous, je vous en prie. Attention, ce n'est pas très très confortable, voilà. Alors, comment vous sentez-vous?
Eh bien, je me sens fort bien parce que j'ai la même tenue que vous lorsque je suis chez moi, donc il n'y a pas de problème.
En robe de chambre.
Ça me fait plaisir.
Sauf que j'ai les cuisses moins poilues, voilà.
Bon, c'est pas si grave que ça. On va jouer à un petit jeu, Antoine.
Oui.
Un jeu dans lequel vous n'êtes plus Antoine.
Je sens que le lien entre nous se noue, là. Hein. C'est bien.
Je le sens aussi. C'est...
Je sens qu'il y a comme une espèce de magie qui se produit entre nous deux, voilà.
Et aussi une espèce de tension.
Tension, comme une grande tendresse. Allons-y, alors.
Vous n'êtes plus Antoine et je ne suis plus Monsieur Previously.
Ça m'étonnerait.
Vous êtes Dieu. Et je suis le diable.
Ah bah, je vais avoir du boulot. Vous êtes qui?
Je suis le diable.
Ah, bah très heureux de faire votre connaissance.
Non, on se connaît. Oui. On se connaît et comme à notre habitude, nous nous retrouvons dans un petit troquet vers le métro Javel pour parler.
Oui.
Ça va, Dieu?
Ça baigne, tout va bien, ça baigne, c'est impeccable. Enfin, là, il se passe des choses pas terribles sur la planète. Tu devrais arrêter peut-être de faire des conneries, le diable.
Je sais, mais je peux pas m'en empêcher, si tu veux.
Oui, mais c'est ça le problème, mais... Écoute, si on arrivait à associer le Dieu et le diable en même temps, peut-être qu'on arriverait à faire des étincelles ensemble.
Attends, tu veux qu'on fasse quoi exactement?
Eh ben, modifier la planète, par exemple, donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, donner à manger à ceux... Puis surtout que les gens arrêtent de, de s'entretuer pour n'importe quoi.
Mais ça sert à rien, ça va bientôt péter, Dieu, tu le sais très bien, on a prévu ça dans pas longtemps.
Tu veux dire le 12 décembre 2012 ?
Exactement, ça va être la grosse fiesta, Dieu.
Ben, on va pouvoir jouer à la pelote tous les deux là-haut, alors tranquille.
Non, ben, c'est pas grave. Bon, tu vas faire quoi la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, eh ben, je vais chanter à l'Olympia.
Ok, alors je serai là, Dieu. Salut, vieille branche.
La première fois que Dieu chantera à l'Olympia, ça va être super.
Exactement.
Allez, ciao.
C'était Antoine et Monsieur Previously. Un dialogue inédit entre Dieu et le diable, au Petit Troquet, au métro Javel.
Il est sympa, mais qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner ?
Vous n'êtes pas le premier à nous parler de son haleine, il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, on va écouter de la musique maintenant, tout de suite, et on va écouter notamment un extrait de votre nouvel album, le premier depuis 25 ans. Et c'est pas vous qui l'avez écrit celui-là, hein, c'est Au revoir Cayenne, c'est pas vous qui l'avez écrit.
Demain Cayenne. Non, c'est pas vous qui l'avez écrit.
Non, attendez, pourquoi vous dites Demain Cayenne ? C'est Demain Cayenne, bien sûr.
Demain Cayenne, oui. Les titres ont été écrits, je vais faire bref, ont été écrits par un groupe d'auteurs-compositeurs dirigés par le grand musicien Stanislas. Vous connaissez Stanislas, le manège, le circus. Et c'est lui qui m'a appelé un jour au téléphone, sur mon bateau, au bout du monde. Il m'a laissé un message. Quand tu rentres à Paris, viens me voir, je voudrais produire un disque entier pour toi. Et c'est ce qui a été fait. Il a tout dirigé. Et il dirige aussi les répétitions pour l'Olympia, qui est la semaine prochaine, qui est le 14 novembre. Et c'est un travail formidable. Et il m'a fait beaucoup travailler pour ce disque.
Même au bout du monde, vous avez le réseau téléphonique ?
J'ai un téléphone satellite. Ça s'appelle Iridium. Et c'est, ça marche partout sur la planète. C'est un progrès qui n'existait pas il y a 15 ans, 10 ans, et qui est très utile, des fois un peu nocif, mais en général.
J'allais vous le dire, maintenant utile. Vous êtes comme nous, vous êtes connecté à tout et à tout le monde. Alors là, c'est plus.
Non, on n'est pas connecté. La connexion Internet est très très lente, mais au moins les messages, on les reçoit.
Ok, allez, Demain Cayenne, extrait du nouvel album d'Antoine.
Et hisser tout le beau temps par-dessus les voiles. Hier au Vanuatu. Puis laisser le mélange du ciel et du vent, la mémoire à l'océan. Quitter le vertige dans les barres de flèches. Aujourd'hui, Gibraltar. Passeront les grains où ma guitare sèche. Passeront tant de soir. Je reviens, je suis bien quelque part. Je reviens, partir n'est qu'un écart. Demain Cayenne, demain loin. Oui, je me suis fait une vie en 4x3. Les toits Motu, l'estuaire. On ne revient jamais pareil, vraiment de là-bas. J'arrive à vous, vous criez terre. Je reviens, je suis bien quelque part. Je reviens, partir n'est qu'un écart. Je reviens, je suis bien quelque part. Je reviens, partir n'est qu'un écart. Demain Cayenne, demain loin. Je reviens, je suis bien quelque part. Je reviens, partir n'est qu'un écart. Demain Cayenne, demain loin. We'll be right back.
Antoine. Alors ça, c'est énorme. Antoine, dans le studio 106, il faut expliquer aux auditeurs de France Inter ce qui vient de se passer, puisque d'après la mémoire de ce lieu, une des mémoires de ce lieu avec Richard Larnac, c'est la première fois, Daniel Morin, que vous assistez à cette scène.
On va dire
la
scène. 65 ans de présence ici, c'est la première fois que je vois le chanteur, l'artiste qui se déplace pour aller vers le public. Voilà. Et en plus, je voyais pendant que vous l'applaudissiez, moi qui suis à 50 cm de lui, il est très ému par vos applaudissements.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Merci beaucoup. Parce qu'on est en direct, je vais en profiter, je veux savoir ce qui vous émeut en fait.
Pardon, ce qui m'émeut ?
Qu'est-ce qui vous émeut ?
Ben, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et je n'ai peut-être pas dit assez bien, c'est cette immense tendresse et cette touchante estime, vraiment, que les gens me témoignent partout. Quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, ouais, enfin, plutôt les jaloux, des gens du métier qui disent, ouais, t'es là-bas, sous les cocotiers, de temps en temps, tu viens prendre du pognon, etc. Moi, c'est pas du tout ça, ma vie. Hein. Ma vie, c'est... je suis amoureux de la planète, je suis amoureux des gens que je rencontre, amoureux de la solitude aussi. J'ai en plus la chance d'avoir un métier, plein de métiers, j'en ai fait 27 des métiers. 27 pour lesquels, parfois, j'ai été payé 3 nefles, mais où j'ai été payé quand même, je parle pas des hobbies. Hein. Puis en plus, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est la plus belle aventure qui soit arrivée dans ma vie, donc je peux pas me plaindre, hein. Je peux pas me plaindre. Et quand je vois la gentillesse qui m'est témoignée, alors que j'ai tous ces privilèges en plus... Et eh ben des fois c'est ça déborde quoi et puis ça m'émeut voilà.
C'est très beau à entendre, c'est très sincère. Et parce qu'on n'a pas bien décrit la scène, c'est que les auditeurs de France Inter ont l'habitude d'entendre des lives. Et là, on a envoyé un extrait de l'album pour entendre les beaux arrangements de Stanislas, parce que c'est quand même un des meilleurs compositeurs de cordes en France. Et donc effectivement, d'habitude les artistes écoutent, je le dis aux auditeurs, hein, écoutent le morceau avec nous. Et là, vous êtes mis à le chanter. Alors à moitié en playback, c'était une forme de répétition pour l'Olympia, parce que vous l'avez pas souvent chanté debout cette chanson. Hein.
Non, c'est la première fois que je la chante devant un public réellement.
Hein, voilà. Donc l'Olympia, 14 novembre. Et là, le public de France Inter qui a l'habitude d'écouter le titre, comme on le fait d'habitude, ben d'un seul coup, vous leur avez donné quelque chose. Et donc à la question pourquoi, malgré vos privilèges, les gens vous aiment, voilà la réponse. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Merci d'avoir fait ça. Et moi, j'avais l'impression d'être en midi première avec Daniel Gilbert quand on voyait les artistes derrière les barrières en train de faire du playback à moitié et je comprenais pas pourquoi. Donc c'était fascinant. Alors on va faire rentrer sur ce plateau un savant, un scientifique. Là, il s'agit d'un historien qui est spécialiste de l'histoire des États-Unis et de l'Angleterre et qui s'intéresse, et pour cause, puisque c'est dans cette campagne présidentielle, c'est plus aigu que jamais, mesdames et messieurs, l'histoire des religions des États-Unis par Lorik Henton. Donc historien, spécialiste d'histoire britannique et américaine, maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour Lorik.
Bonjour.
Je voulais savoir comment on prononce votre nom de famille, comme ça j'arrête d'inventer à chaque fois.
Henton.
Voilà, je dis Henton tout à l'heure.
Oui.
Hein, ça passe bien aussi.
C'est vous qui voyez.
C'est très américain. Et donc vous êtes spécialiste de cette histoire américaine, histoire religieuse des États-Unis, parce que vous êtes en train de vous demander si Mitt Romney gagne les élections, on aura un mormon à la Maison-Blanche, c'est ça ?
Ah, si Mitt Romney gagne les élections, on aura un mormon à la Maison-Blanche. Bon. Ça, c'est certain.
Vous nous direz si c'est grave pour le reste du monde et pour les États-Unis dans un instant. Voilà. Vous nous expliquerez un peu qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être mormon. C'est un peu abstrait vu d'ici. Hein, ils sont quand même très nombreux dans le monde. Hein. 14 millions, c'est ça ?
14 millions, oui.
Bon, on va en parler dans un instant. Mais auparavant, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui est à côté de moi. Et il semble que c'est le week-end de la Toussaint, ce soit le jour des défunts. Et c'est ça qui vous a inspiré, Michel Guigon ? Michel Guigon !
Oui. Bonjour. Oui, je me suis dit que de toute façon, Antoine allait se charger du côté de la vie, donc je me chargeais du côté de la mort. Parce que longtemps, en réalité, j'ai cru qu'on ne mourait pas à Paris. Je ne sais pas vous, public et auditeur de toute la France, votre impression, mais à Paris, c'est net. Et je vous en parle parce que mon voisin du dessous est mort. Je m'en suis rendu compte en voyant par la fenêtre un fourgon mortuaire devant mon immeuble. Ah, c'est ça que j'entendais dans le couloir, tous ces bruits, ces voix murmurantes. J'ai entrouvert ma porte, effectivement. Je sais pas si l'appartement de mon voisin était trop petit ou la famille trop grande, mais il y avait des gens plein le couloir, jusqu'à mon palier. Et ça pleurait, ça pleurait. Moi, il fallait que je parte, là, maintenant, si je voulais arriver à l'heure. Décemment, je pouvais pas traverser cette foule sanglotante comme si de rien n'était. J'ai donc été obligée de présenter mes condoléances. J'ai serré un nombre de mains incroyable, alors que je ne connaissais à peu près pas mon ermite de voisin. Et je vais à mon vélo. Jamais, jamais, je n'oublie les clés du cadenas. Mais là, si.
Je retourne à l'immeuble, retraverse la famille en expliquant « mais j'ai oublié mes clés, ok, ils sont préoccupés par plus grave ». Et juste, je glisse et je me casse la figure au milieu d'eux. Je me relève aussitôt et pour montrer que je vais bien, que même je maîtrise la situation, je dis « ça va, il n'y a pas mort d'homme ». Oh là. Je monte chez moi, je prends mes clés, j'attends au cas où ils partiraient dans les 5 minutes. Non. Je redescends, un sourire de cire sur mon visage pour l'éventualité où je ne serais pas devenue transparente, comme je le supplie. Je retraverse la famille. Alors, 1, je suis bien restée visible. Et 2, je constate que le ridicule et la honte ne tuent pas. Mais là, je m'abstiens de leur faire part de ma découverte. Et c'est en revoyant le fourgon dans la rue que je me suis fait la réflexion. Ça fait 30 ans que j'habite cette rue et j'ai jamais vu de fourgon mortuaire. Il n'y a pas grand-chose qui nous rappelle qu'on meurt à Paris. Tu sais, pas même les cimetières nous en font prendre conscience. À Paris, les cimetières, ce sont des œuvres d'art. C'est comme les musées, c'est visité, c'est plein de touristes. Ça fait plutôt vacances. Et puis à Paris, dans les journaux, on ne lit pas les rubriques nécrologiques. C'est-à-dire que dans les journaux qu'on lit à Paris, il n'y a pas vraiment de rubriques nécrologiques. Alors que dans les journaux en province, il y a. Hein. C'est même la première chose qu'on fait quand le journal arrive le matin en province. Alors, qui c'est qui est mort? Que je connais, bien sûr, hein, c'est mieux. Ah, tu vois, j'aurais pensé que ce serait elle d'abord. Et si on ne connaît pas, on regarde les âges. Et si c'est un jeune, ça nous touche pour toute la journée. On est comme ça. Mais à Paris, non, il n'y a rien qui nous rappelle que vous ou moi, on meurt. Bien sûr, si c'est une célébrité, ça on en parle dans les journaux, hein, ça vous arrivera Antoine, c'est carrément en première page. Ah, remarquez, un général ou un colonel dans Le Monde, ah ouais, effectivement, un marquis dans Le Figaro, oui aussi, un ouvrier dans l'Huma, non. C'est-à-dire que vu les prix dans les journaux parisiens, passer une annonce mortuaire, c'est pas de l'info, c'est de la publicité. C'est pas compliqué. À Paris, le commun des mortels, il meurt pas. C'est pour ça qu'on a des fanfarons, les Parisiens. On est immortels. C'est pour ça qu'on conduit comme on conduit. On s'en fout, on peut pas mourir. Et ça, on en est d'autant plus persuadé qu'on a 20 ans. Bah, si on peut pas mourir, on vieillira. Ça, on en est d'autant moins persuadé qu'on a 20 ans. Quand on a 20 ans. Parce que, à 20 ans, 40 ans, c'est si loin que c'est improbable que ça nous arrive. Alors qu'une fois qu'on a atteint 40 ans, 60 et même 80 sont envisageables. Hein. Ah non. Mais la vie est un cadeau. Hein. Et on en comprend le prix au fur et à mesure.
Michel Guigon. Michel Guigon, vous pouvez voir sur scène un peu partout en France. Allez sur le site de Michel, michelguigon.com. Vous avez un petit commentaire ?
Non, j'apprécie beaucoup. C'est vrai que je rencontre parfois des gens qui ont votre âge, Marie-Claude, et 80, 85 ans, avec une vie encore très active. Donc, c'est vrai qu'à 20 ans, on n'imagine pas d'avoir 40 ans, mais à 80, on serait très content d'en avoir 90. C'est arrivé à 90.
Elle est d'accord, Marie-Claude. Alors, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis, parce que je ne sais pas si vous écoutez l'actualité ou vous vous protégez de ça, en fait, Antoine.
Je l'écoute le moins possible lorsque je suis au loin. Je ne vis pas dans une bulle, je vis un petit peu comme l'idiot sur la colline, c'est-à-dire que j'ai une vue d'ensemble un petit peu, quoi. Je ne suis pas tout le temps soumis à l'actualité. Mais là, c'est vrai que ce qui se passe, ce qui risquerait de se passer si le Mormon était élu aux États-Unis, ça vaut la peine de s'y intéresser.
Alors effectivement, donc Lorik Henton est historien, spécialiste des États-Unis, de l'Angleterre, et donc avec cette histoire de Mitt Romney, donc, qui est en train d'essayer de battre... Donc Barack Obama, c'est un mormon qui arrivera à la Maison-Blanche. Alors avant de ça, je veux savoir, comme ça dans l'esprit du public, je veux demander ce que mes camarades connaissent sans avoir étudié la question. Un mormon, c'est quoi pour vous, Walter ?
Pour moi, c'est un disciple de Joseph Smith. Mm-hmm. C'est l'hérésie américaine. Voilà.
Ok, Sonny ?
Ils repassent parfaitement leur chemise.
Daniel, un mormon.
Pour moi, ce sont des héros. Hein. Ils voyagent dans des carrioles avec des chevaux et ils ont plusieurs femmes.
Ils sont polygames, effectivement. Michel Guillon.
Mais ils ont encore plus vrai que le vrai. Donc, et ils veulent nous l'imposer.
Ouais, Delphine.
Pour moi, un mormon, c'est Charlie Ingalls. Dans la petite
oui, c'est
dans
ça.
La
c'est comme ça qu'on le voit. Marie-Claude, un mormon, c'est quoi pour vous?
Je ne sais pas, mais Obama gagnera, j'en suis pratiquement sûre.
Analyse politique de Marie-Claude. Alors, qu'est-ce que c'est un mormon, Lorik? Lorik, un mormon, c'est quoi?
Alors, un mormon, c'est à la fois ce qu'il y a de plus américain en matière de religion et en même temps ce qui est à la marge de l'Amérique, puisque c'est considéré par pas mal de gens aux États-Unis comme une secte. Alors, le nom exact, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est pour ça qu'on dit mormon, c'est quand même beaucoup plus pratique. donc, c'est une des seules religions, enfin, c'est la seule religion qui a été créée aux États-Unis, contrairement aux autres religions qui ont été importées aux États-Unis. Alors, en chiffres, comme vous disiez, ça fait 14 millions, c'est un quart de la population française, 14 millions de mormons dans le monde, mais 6 millions aux États-Unis, c'est-à-dire que plus de la moitié des mormons vivent en dehors des États-Unis. Donc, c'est un beau produit d'exportation culturelle. Aux mormons, aux États-Unis, ça représente 2% de la population, donc c'est pas énorme finalement. On en trouve beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique centrale, un peu plus d'un million au Mexique, au Brésil, Pérou, Chili, Argentine.
Ils ont des évangélistes très actifs.
Hein. Voilà. Ça, c'est le principe de base.
Et c'est ça qu'il était. Donc,
ça s'exporte. C'est une religion en expansion.
Il y en a en France des mormons.
Il y en a 35 000 en France.
Où ça?
Un peu partout.
Quelle adresse?
Il y a une controverse en ce moment près de Versailles, au Chesnay, où ils veulent construire un temple, et donc ça crée des débats.
Des tensions dans le voisinage.
Voilà. Il y a des gens qui sont tout à fait opposés à la construction d'un temple mormon, donc à côté de Versailles.
Mais ils sont en carriole aussi chez nous?
Ils sont en carriole. On en trouve, mais on en trouve très très peu. Hein, faut bien chercher. C'est plutôt non, ils sont assez voitures.
Bon, le Charles Ingalls au marché, vous savez qu'il est mormon. Et donc, précisément, pour qu'on comprenne, Mitt Romney donc, était évangéliste. Hein.
Mitt Romney a été évangéliste, comme de nombreux mormons.
Missionnaire, plus
voilà, c'est ça. On parle de missionnaire. Ils ont un impératif. Il faut qu'ils gagnent des nouveaux croyants. Donc, lui, il a été envoyé dans la région de Bordeaux au moment de mai 68. Donc, il garde une très bonne image de la France.
Sauf qu'il a eu un accident de voiture.
Voilà, il a eu un accident de voiture très grave avec un prêtre catholique. Il a pas failli passer. C'est marqué, il est mort dans son... il a été déclaré mort par les gendarmes français. Donc, dans son passeport, il est marqué, il est mort. Donc, en fait, il n'est pas mort.
La police scientifique en France.
On les est loin experts. Hein. Il y a les experts de Miami.
Non, blessés seulement.
Et les experts de la région de Bordeaux à l'époque. Il est mort.
Voilà. Et il est revenu parmi les vivants.
Ah bah, je comprends mieux.
Ah, c'est une belle promo hein, pour un fraîcheur.
Vécu, c'est marqué sur la pochette de l'album. Et donc lui, pourrait se retrouver à la Maison Blanche. Expliquez-nous un petit peu les valeurs que véhiculent les mormons.
Alors, déjà, ce qu'on associe généralement aux mormons, on l'a vu tout à l'heure, c'était la polygamie. C'est faux. Et l'autre caractéristique qu'on associe aux mormons, c'est la généalogie. Ça, c'est vrai. Alors, c'est
La polygamie,
c'est faux. C'est-à-dire, sauf une frange extrêmement minoritaire, il y en a en gros, je crois, 38 000 sur 14 millions, donc ça fait vraiment...
C'est tous les Français, en fait.
Voilà. Alors, en fait, ça n'existe... C'est illégal chez les mormons depuis 1890, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est la condition d'admission de l'Utah dans les États-Unis. On veut bien de vous, mais vous arrêtez la polygamie. Donc, il y a un certain nombre de mormons qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas y renoncer, donc ils sont partis vers le Mexique. Et la famille de Mitt Romney, je crois les grands-parents de Mitt Romney, sont partis vers le Mexique pour vivre leur foi et leur polygamie librement.
D'accord. Vous êtes mormon, vous regrettez ce changement?
Non.
Oh, elle est jolie cette petite réponse d'historien. Alors, non mais précisément, alors, c'est quoi les valeurs des mormons?
Alors, une des...
Tout ce qui est proscrit.
Alors, tout ce qui est proscrit, alors déjà, il y a tout ce qui est addictif, c'est-à-dire le café, le thé.
Oui, alors le café, c'est drôle, la caféine quand même. Hein. Dans une religion, je trouve ça très drôle. Donc l'alcool, ça en a l'habitude.
Tout ce qui est la drogue et même la pornographie, puisque c'est considéré comme addictif et immoral.
Les soldes.
Les soldes. Alors, on enchaîne.
La famille absolument cardinale, puisque le mariage scelle les liens pour l'éternité. Donc fidélité, chasteté, ils ont des petits sous-vêtements rituels, donc c'est assez folklorique, on en parle.
C'est-à-dire, j'ai pas compris.
C'est-à-dire, c'est des communs d'amar, quoi, ou des caleçons blancs qui sont pas très affriolants, et qui sont des espèces de ceintures de chasteté qui leur rappellent leur impératif de chasteté.
D'abstinence.
Voilà, d'abstinence.
Ouais, c'est pour ça que vous ne connaissez pas, Frédéric.
L'auteur de Twilight, les histoires de vampires, est une mormone. C'est aussi pour ça que ça parle beaucoup de chasteté. Une pratique religieuse très assidue. Ils sont très investis dans l'humanitaire. Ils doivent reverser un dixième de leurs revenus.
Ça, c'est cool.
Ça dépend si c'est les vôtres. Vous diriez peut-être pas ça.
Ça ne rien.
Et alors, parmi les croyances qui font débat, il y a le Livre de Mormon. C'est-à-dire que ça a été une révélation. Une religion, ça commence toujours par un prophète qui a une révélation. Le Livre de Mormon, c'est Joseph Smith, qui reçoit donc une révélation en ligne directe de Dieu, un ange qui lui dit d'aller déterrer un livre dans le Vermont, qui est une continuité de la révélation. Alors pour beaucoup de chrétiens, catholiques comme protestants, c'est une hérésie, puisque la révélation s'arrête au 1er siècle. Donc la révélation continue, c'est absolument intolérable. C'est pour ça qu'aussi ils sont considérés comme une secte. Ils sont très patriotes, ils sont très bons en langue, parce que c'est impératif missionnaire, donc c'est une cible de choix pour les services secrets, par exemple. Parce qu'on sait que ça ne va pas être des agents doubles, et en plus, ils sont capables de comprendre des langues.
James Bond en carriole, j'imagine.
Exactement. Voilà. Alors, on va se concentrer, et précisément, vous allez nous dire si, comme ça, sans porter de jugement, vous êtes historien, mais c'est quoi les conséquences qu'il pourrait y avoir pour le reste du monde si le président des États-Unis était mormon ?
Le mormonisme n'a pas vraiment de conséquences. Les évangéliques qui étaient absolument contre le fait de voter pour un mormon se sont résolus à voter pour quelqu'un dont ils partagent les valeurs et pas la théologie. Donc c'est un conservateur moral, social, mais le mormonisme n'aura pas de conséquences directes sur sa présidence. Il y a une séparation
sur
de l'Église et de l'État.
Sur la politique internationale.
Peut-être un rapprochement avec Israël, puisqu'il y a une forte identification des Mormons à Israël, puisqu'ils ont traversé le désert pour se retrouver dans l'Utah. Il y a une certaine identification, mais c'est quelque chose qu'on trouve en dehors des Mormons, chez les Républicains de toute façon. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité mormone sur la politique étrangère.
Pourquoi pour vous c'est intéressant de s'intéresser à ça ?
Alors c'est un objet de curiosité parce que Mitt Romney est mormon. Mais si le candidat avait été Rick Santorum, par exemple, ou Rick Perry, qui étaient les autres challengers républicains, on n'aurait absolument pas parlé des mormons.
Et vous n'auriez pas de boulot.
Si. J'aurais parlé des évangéliques ou des catholiques.
Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est Loric Elton, spécialiste de l'histoire américaine. On en sait un petit peu plus. Antoine, vous êtes d'accord pour qu'on écoute de la musique ?
Bien volontiers.
Et donc, j'entends en live, c'est Marion Guibault qui va nous le présenter.
Bonjour Antoine, il pourrait être un de vos héritiers. D'ailleurs, il va assurer votre première partie à l'Olympia le 14 novembre. Comme vous, il a une histoire avec les îles. La sienne, ça a été longtemps la Jamaïque, car il était dans sa première vie musicale le chanteur du groupe de reggae français.
Il était dans un baobab, lui.
Tout à fait, baobab.
Trouvé dans un baobab.
Voilà, il porte un nom de cépage rouge, typique du bordelais, mais il se définit plutôt comme un crooner banlieusard. Ses textes sont décalés, son ton plutôt nonchalant et ses chansons swing. Il vient de sortir son deuxième album, Business Class, et nous fait faire un tour en banlieue avec ses musiciens dans Hello, c'est Merlot.
Merlot.
Ok. Oh. Hello mademoiselle, hello milady. Parlez-vous français, connaissez-vous Paris? Voulez-vous que je vous appelle un taxi pour la tour Eiffel? Are you ready for a safari? We'll cross the périphérique. C'est encore plus beau que l'Afrique. We'll take the RER. Go to changer d'air, la chapelle direction le paradis. I won't bring you down to the Moulin Rouge. Si vous voulez, je vous emmène là où ça bouge. I will show you some beautiful city. Orly, Choisy et Vitry, Crème, la Bicêtre, Bagneux, Fresnes, Ivry. Hello, hello, man. Comment tu t'appelles? Hello, my name is Merlot. Come on! I will bring you to the famous 9-3. I will show you some real, real chaira. Un petit tour dans le ghetto, vous pourrez tester le bédo. Vous verrez des choses typiques comme la queue aux acéliques. We go to a petit restaurant. The name is La Fontaine à frites, c'est marrant. You should have a try, the little sauce samouraï. You like the gastronomy from France. I won't bring you down to the bateau mouche. Si vous voulez, je vous emmène dans des endroits louches. I will show you some old French courtoisie. À Orly, Choisy et Vitry. Crème la bisette, bagueule, freine, irie. Hello, hello, mademoiselle. Hello, comment tu t'appelles? Hello, my name is Merlot.
C'était Merlot en direct du studio 106. Première partie à l'Olympia le 14 novembre d'Antoine.
Il sera également en concert demain à Bobigny les 16 et 13 novembre à la Boule Noire à Paris, le 11 à Nantes et après une tournée en banlieue parisienne.
Merci d'être venu nous voir, d'avoir donné la pêche. Alors vous, c'est l'éclate, hein, vous serez en coulisses de la première partie.
Et en plus, il a un clip génial, vous l'avez vu certainement, un clip qui est totalement fixé, filmé en caméra verticale. Et ça fait que les gens semblent être debout, mais ils sont couchés sur le sol, donc ils ont des mouvements complètement incompréhensibles. C'est un clip qui est très beau.
Bon, et alors c'est magnifique. Donc on a 30 secondes pour parler d'Olympia le 14 novembre.
14 novembre, oui.
Donc c'est quoi, ça va être la régalade annoncée dans votre cerveau, là, c'est, vous êtes programmé
pour
ça.
On va bien s'amuser, il y aura des chansons que tout le monde connaît, puis... des anciennes plus anciennes, des élucubrations, Cannelle, Un air d'été, juste quelques flocons et plein d'autres, et puis Touchez pas à la mer, et puis plusieurs chansons, peut-être huit chansons du nouvel album, quoi. Demain Cayenne, bien sûr, il y aura Les Arts du Lit. Les Arts du Lit, tout le monde a choisi, quand je parle de cette profession, je dis pour moi ce sont des gens très respectables, personne ne leur dicte leur vie, tout le monde a choisi Les Arts de la Table, ils ont choisi Les Arts du Lit. Voilà. C'est une, il y aura des chansons nouvelles de ce disque, et puis j'espère qu'on va bien s'amuser, puis je suis ravi que ce soit Merlot qui soit en première partie.
Bah, tout le monde est content, on se retrouve dans 30 secondes sur France Inter avec Antoine.
Madame, vous avez choisi un fromage du Pays Basque.
Un Osso Irati.
Osso Irati, du Sud-Ouest. D'accord, mais...
Je vous ai dit Osso Irati, le seul brebis du Béarn et du Pays Basque en appellation d'origine protégée. D'autres questions?
Non, c'est clair.
Il y a du plaisir chez nous.
Osso Irati, le pur brebis qui sort du troupeau. Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne et la région Aquitaine.
Il est midi sur France Inter, les informations, Estelle Schmitt.
François Hollande sera en visite dimanche à Beyrouth, au Liban. C'est un haut responsable de la présidence libanaise qui l'annonce. Pas de confirmation pour le moment de l'Élysée. Le président de la République devrait rencontrer son homologue Michel Sleimane quelques jours après l'attentat imputé à la Syrie qui a coûté la vie au chef des renseignements de la police libanaise. François Hollande qui était à Toulouse hier pour l'hommage aux victimes de Mohamed Merah dans l'école. Le président de la République a reconnu des failles dans les services de renseignement français. Et de son côté, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, lui pays a parlé de problèmes lors de l'opération Mohamed Merah, quand le suspect a pu sortir de chez lui pour téléphoner. Tout un secteur de Toulouse, justement, bouclé, la circulation interdite dans l'ancien quartier de la Cartoucherie ce matin. Les démineurs sont en action après la découverte d'une centaine d'obus. Et ce n'est sans doute pas terminé, Frédéric Bourgade.
Les fouilles vont encore durer jusqu'à la fin du mois de novembre, car il y a probablement d'autres obus dans le sous-sol de l'ex-cartoucherie hier. Les artificiers ont déjà sorti une centaine d'obus antiaériens de calibre 30. Des stocks contenus dans des caisses, cachées parfois sous quelques dizaines de centimètres de terre. Ils ont même trouvé un obus de l'époque napoléonienne. Pour sortir ces munitions, une pelleteuse enlève tout d'abord les couches de terre, puis un artificier professionnel opère délicatement à la main. Objectif, éviter tout contact pouvant provoquer une explosion. Le quartier de l'ex-cartoucherie est bien sûr interdit à toute circulation, véhicules et piétons. Les voisins les plus proches des fouilles actuelles sont à 300 mètres de là. Théoriquement, ce terrain de l'ex-cartoucherie était déjà dépollué. La ville l'a acquis pour 28 millions d'euros et veut en faire un éco-quartier. Elle est en procès avec le GIAT, l'ex-propriétaire, pour non-respect de ses obligations de dépollution. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
À Marseille, les renforts de policiers sont arrivés dans la matinée. 120 fonctionnaires supplémentaires, c'était la promesse du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Après un énième règlement de compte, hier après-midi, un nouveau. Deux jeunes hommes tués en voiture par balle dans un guet-apens en plein jour. 23 personnes sont mortes dans des règlements de compte dans cette ville depuis le début de l'année. Génération Identitaire tient son congrès ce week-end à Orange, dans le Vaucluse. Un groupe dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec notamment l'occupation d'une mosquée à Poitiers. Ça sera l'instantané du journal de 13h de France Inter. Tout à l'heure, invité de Patrick Boyer, Stéphane François, chercheur au CNRS et enseignant spécialiste de cette mouvance. Déjà en difficulté depuis le début de l'année, le marché automobile poursuit sa descente. Les immatriculations de voitures neuves chutent en octobre de 7,8%, une baisse de 13,5% en 10 mois. C'est Renault qui souffre le plus chez les Français avec une baisse de 26,4%. PSA, Peugeot, Citroën perd 5%. Les trains partent à l'heure depuis ce matin entre Paris et le Sud-Est. Après la pagaille d'hier soir, dû à un câble de fibre optique sectionné, sans doute par des voleurs à la recherche de cuivre. Enfin, certains passagers ont quand même passé des heures à attendre sans rien manger dans les trains. Aux États-Unis, la campagne électorale s'accélère, les visites, les meetings se multiplient. Pas moins de 30 réunions prévues par Barack Obama et Mitt Romney d'ici lundi soir, à 4 jours maintenant de l'élection présidentielle. De nouvelles inondations redoutées dans le Pas-de-Calais. Une partie d'une rivière, la Liane, est en vigilance orange. Son niveau augmente de façon inquiétante depuis ce matin. Il a presque augmenté de 2 mètres. Les risques de crues sont forts. Même sans être sur le terrain, il attire tous les regards. Nicolas Karabatic était dans les tribunes hier soir lors du match qualificatif de l'Euro de l'équipe de France de handball. 27 à 18 pour les Bleus face à la Lituanie. Et sans jouer, Nicolas Karabatic a été ovationné par le public. Le joueur mis en examen dans l'affaire des paris présumés frauduleux vient de réintégrer l'équipe de France. Mais le sélectionneur Claude Onesta insiste, ça ne veut pas dire qu'il soutient Karabatic.
C'est pas un coup de main, écoutez, moi je suis pas là pour distribuer les coups de main, les gentillesses. Je crois que la place de Nicolas n'est plus à faire ou à justifier parmi nous. Je pense qu'au contraire, ne pas le prendre aurait été une faute de ma part, parce que ça aurait été un signal que je ne voulais pas donner. Je crois que sportivement, il a sa place parmi nous à chaque fois qu'il sera en état de le faire. Alors après, est-ce qu'il jouera peut-être dimanche? Est-ce qu'il jouera beaucoup? Sûrement pas. Mais je pense que, bon, effectivement, lui, il avait sûrement besoin d'être là, mais c'est aussi le besoin qu'on a à l'avoir avec nous. Donc, vous savez, l'équipe de France, c'est pas que des moments sur le terrain, c'est aussi des moments de vie partagés, c'est cette proximité, ces relations de partage et de confiance qui habitent ces joueurs. On a surtout parlé de handball, et on a eu plaisir, encore une fois, à parler avec tous les gens qui étaient avec nous.
Et l'affaire des paris de handball, on y reviendra dans le journal de 13h également, avec les procès-verbaux des auditions des compagnes des frères Karabatic publiées dans Libération. Et puis tout va bien pour le moment pour les Français au Masters 1000 de Paris-Bercy. Trois tentent de se qualifier tout à l'heure pour les demi-finales. À partir de 14h, Gilles Simon affrontera le Tchèque Thomas Berdych. Dans la soirée, Joe Wilfried Tsonga sera opposé à l'Espagnol David Ferrer et Michael Yodra à l'Américain Sam Querrey.
Franceinter.fr. Des milliers d'offres d'emploi,
de stages,
à retrouver en un clic
sur franceinter.fr.
Tous les dimanches à partir de midi, en direct et en public du studio 109,
3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, la vie. Le principe du vivant au lendemain de la Toussaint, le jour des morts. La vie, c'est-à-dire une histoire de la continuité, végétale, biologique, physique. L'éternité des atomes serait-elle une histoire sans fin ?
Pour assister à l'émission, rendez-vous dimanche à 11h30 devant la porte B de la Maison de Radio France.
À dimanche.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
He was a great dog, a great friend.
France Inter présente Frankenweenie, le nouveau film de Tim Burton, actuellement au cinéma.
The best dog a kid could have.
C'est l'histoire d'une amitié indestructible entre Victor et son chien Sparky. Lorsque Sparky meurt dans un accident, Victor, passionné de science et inventeur génial, fait appel à toutes ses connaissances pour le ramener à la vie.
I can't believe it!
Retrouvez Frankenweenie de Tim Burton dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Autrefois, c'était mieux parce que c'était... Il n'y avait pas les... C'était...
Non. C'est... Mais vous continuez longtemps.
Tu penses qu'ils appellent ça de la musique.
En tout cas, les informations, bah, il paraît que c'est pas vrai.
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
France Inter, 12h07, on va tous y passer la suite. Frédéric Lopez et ses invités.
Merci beaucoup Estelle. Retour en direct du studio 106 avec Antoine, Monsieur Previously, Sonny Chan, Walter, Delphine McCarthy, Michel Guigon, Daniel Morin et Richard Lanac. Alors Antoine, pour les auditeurs de France Inter qui nous rejoignent, il est midi 7 exactement. Je rappelle que vous êtes en train de vivre pas mal de choses, mais jamais les premières fois, donc c'est une première fois depuis 25 ans. Premier album, produit, vous l'avez dit, composé pour certaines chansons par Stanislas, qu'on a connu aux côtés de Calogero.
Oui, bien incroyable sûr, dans Circus, voilà. Oui.
Incroyable compositeur de cordes, notamment.
C'est lui qui dirige l'orchestre et les musiciens, etc., à l'Olympia, hein, sans problème. C'est lui qui dirige toutes les répétitions actuellement.
Voilà, donc quand je dis très très bel album, c'est non seulement c'est beau et mélodieux, mais en plus, on a l'impression que vous n'avez jamais aussi bien chanté.
Eh ben, il m'a fait travailler. Le bougre, il m'a fait bosser. Il m'a fait bosser. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas passer du temps en studio. Je lui ai laissé toute confiance pour les musiciens. Je suis allé à une seule séance d'orchestre, mais j'ai vu à quel point il est professionnel et toute l'équipe est très professionnelle. Mais par contre, les chansons, les voix, je ne pouvais pas faire autrement que d'y être. Hein. Ça veut pas se faire à distance.
J'avais bien essayé, mais non.
Donc, j'ai fait des dizaines, il m'a fait reprendre des dizaines de fois chaque mot pratiquement de chaque chanson, quoi. Et on dit que le résultat se voit et ça fait plaisir.
Et vous avez l'air content du résultat.
Ah bon, j'en suis très content, oui. C'est le disque est un petit peu, il va dans toutes les directions et c'est exprès parce qu'il y a plein de jeunes auteurs, compositeurs qui sont défoncés sur ce disque et tout. Ils se sont éclatés sur ce disque, etc. Une toute petite chose puisque vous parliez de cannabis oui. Tout à l'heure. Évidemment, moi personnellement, je ne fume pas et je déconseille totalement tout usage. Si j'ai pris la parole des fois récemment, en particulier sur la dépénalisation du cannabis, c'est qu'il y a des pays qui ont des situations, des solutions plus intéressantes, moins répressives et qui ont des meilleurs résultats que la répression.
Vous dites
quoi.
Les pays où je me sens bien, les pays qui me sont sympathiques.
Les pays qui me sont sympathiques, non mais en l'occurrence
lesquels, en
Europe, il y a le Portugal en particulier. Le Portugal a dépénalisé et il a le plus petit nombre de consommateurs de toute l'Europe. Quoi. Donc ça devrait faire réfléchir. Moi je ne suis pas du tout...
Pourquoi vous ne fumez pas ?
Moi je ne fume pas parce que je ne vois pas l'idée de se mettre de la fumée dans les poumons, ça ne m'a jamais tenté. Je ne fume pas de tabac, j'ai dû fumer 4 pétards quand j'étais jeune, et encore une fois, je déconseille toute substance, y compris de l'alcool en quantité excessive, hein. Je ne suis pas rigolo, peut-être, je suis peut-être mormon, au fond de moi. Non, mais je crois que la modération est la clé partout, et dans tout la modération, c'est justement le contraire du dogmatisme. Quoi. Le dogmatisme, ça veut dire tout ça est interdit, l'autre côté, on dit tout est permis, quelque part, il y a des modérations, des solutions qui sont
pour la
véritablement la clé. Quoi.
La gourmandise ou pour le sexe. Là aussi, vous faites le parallèle, il y a des limites.
Exactement.
Alors, il n'y a pas de limite. Nous, on est un peu, c'est un peu une addiction, je dois avouer, on en est assez fiers, mesdames, messieurs. Il est 12h09, on a déjà une minute de retard et déjà, on ne se sent pas bien. C'est d'accord. L'heure de Daniel Morin.
Chers invités et collègues exotiques, cher public érotique, bonjour. Michel Guigon en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la fête des morts. Tout le monde célèbre ses chers disparus. C'est la fête. Enfin, pas exactement tout le monde. Oui, dans certaines familles, tout le monde est vivant et ses familles sont injustement privées de malheur. Et pourtant, pour que tout le monde profite, il y a une solution. Chrysanthèmes en fleurs, pluie fine, crise économique, violence urbaine, ce 2 novembre 2012 est un bon cru pour la fête des morts. Malheureusement, vous n'avez personne à pleurer autour de vous. Vos parents sont en bonne santé, vos grands-parents aussi. Alors que tout le monde est triste, vous vous sentez comme un con avec votre bonne humeur. Eh bien, pour que vous aussi puissiez profiter de la fête des disparus et de la morosité ambiante, adhérez à l'UDI, le nouveau parti centriste de Jean-Louis Borloo, qui, à peine inauguré, sent déjà la mort. Vous serez invité à des cocktails qui sentent la naphtaline, où vous croiserez des militants qui ont toujours des francs dans leur porte-monnaie. Alors, pour une fête des morts réussie, adhérez à l'UDI. UDI, incontestablement le parti en vogue, promis avant les autres de passer à la morgue. Passons à... Merci pour...
Daniel Morin.
Passons à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Intéressons-nous à notre invité, intéressons-nous à Antoine. Antoine, comme Fred Lopez, je suis jaloux de vous. Oui, jaloux parce que vous avez, c'est vrai, tout compris à la vie. Pendant que beaucoup s'accrochent à Paris, au stress, à la crise, s'exposant de fait aux programmes sociaux déstructurels que nous proposent les télés privées. Alors oui, je sais, le terme socio-déstructurel n'existe pas dans la langue française, mais je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Eh bien, pendant ce temps-là, vous vous achetez un rafio et vous partez au soleil. Fini la grisaille, les grèves à la SNCF, Benjamin Castaldi à la télé. Aujourd'hui, les contraintes de la vie d'Antoine, la crise pour Antoine, c'est ça. Oh merde, il fait 28 degrés. Ça y est, c'est l'hiver. Ça caille, je vais remettre mes tongs. Voilà, c'est ça la crise pour Antoine. Vous êtes un malin, Antoine, hein? Et en fait, vous avez bien raison. Par ailleurs et par hasard, Antoine, si vous voyez à côté de chez vous une petite baraque à vendre pas cher, je suis preneur. Eh oui, les amis. Ouais, ouais, ça ne me fait pas peur de me mettre en danger à passer les dernières années de ma vie au soleil, à boire des cocktails entourés de femmes souriantes et pas jalouses, le cul dans un hamac avec à mes côtés Richard Lord à campagne qui joue du ukulélé. Voilà, je suis comme ça, j'ai peur de rien. Je vous le dis, à côté de moi, James Bond, c'est une petite tapette. En tout cas, cher Antoine, si tous les Français vous connaissent, il n'en est pas de même pour certaines pièces rapportées ici même, rapportées de loin, comme notre quota sans-papiers, minorité visible, exilé politique, déficiente intellectuellement et esquinté esthétiquement, Sonny Chan. Sonny qui est très intrigué par votre présence et qui, du coup, m'a questionné. C'est l'instant racisme et art de vivre de cette chronique.
Maître Daniel.
Oui, Sonny.
C'est qui l'invité?
C'est Antoine.
Il n'a pas de nom de famille?
Non.
Oh, mais quelle horreur! Un invité qui n'a pas de nom de famille, qui a une barbe pas entretenue, des cheveux étranges et qui porte ce genre de chemise Emmaüs. C'est un SDF alors, ça me dégoûte.
Tu m'amuses, Sonny. Ta naïveté est tellement rafraîchissante. Sonny, tu es belle comme un lagon perdu. Tu es douce comme une fleur de tiare, mais tu es conne comme un flacon de monoeil. Antoine n'est pas un SDF, c'est un navigateur.
Oh, un boat people, c'est pire. Appelez la sécurité.
Non, non, Sonny. Antoine est un ancien chanteur à succès. Il est riche à millions.
Qu'est-ce qu'il est séduisant. Je peux le toucher.
Oh oui, oui, oui. Allez-y, Sonny. Vous savez, Antoine est un marin aguerri. Il est habitué à croiser de la morue.
Merci, maître Daniel.
De rien, mon petit beignet. Alors Antoine, si ça vous dit, c'est cadeau, à lundi.
C'était Daniel Morin, Sonny Chan et Richard Larnac. Oh là là, c'est vrai que... J'ai élevé le statut de SDF à un art. Bon. Exactement, les arts du vie, effectivement les arts du voyage. Moi je continue de dire que vous nous faites rêver. Pendant que les musiciens s'installent en live, regardez-les derrière nous, regardez-moi ce sourire. Et cette chevelure, c'est Marion Guilbault qui va nous dire ce qu'on va entendre.
On continue à voyager dans un pays que vous connaissez bien, Antoine, le Brésil, avec cette artiste née à Rio de Janeiro. Elle a appris la musique en autodidacte, en voyageant dans tout le pays avant de venir en France. Mais alors, au lieu de se contenter de faire de la samba ou de la bossa nova, elle a tenté et elle a réussi une greffe entre la musique brésilienne, la musique africaine et la musique de la Jamaïque. Elle a inventé la bossa muffin. C'est le titre de son premier album, un véritable carnet de voyage musical. Elle interprète avec ses musiciens Oke Sao et c'est Flavia Coelho.
Flavia Coelho sur France Inter, en direct.
Oh! bate, não lembre quem bateu. Não tá a fim de lembrar, não pergunta se doeu. Diz que o amor não vai matar. Quem bate, não lembre quem bateu. Não tá a fim de lembrar, não pergunta se doeu. Diz que o amor não vai matar. Tá tudo em todo lugar, gente que prefere sofrer por amor. Tá tudo em todo lugar, gente que prefere se esconder. Passo toda a minha vida a chorar, você passa o tempo a me provocar, com a sua vaidade, com o seu blá, 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 blá. Não maltrate o que sou, aceite o que sou, não mude o que sou, não maltrate o que sou. No, 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 no. Hey, yo. Quem bate não lembre quem bateu.
En direct sur France Inter.
Elle sera en concert le 16 novembre à la Cigale à Paris. Et comme c'est complet, rendez-vous les 17 et 18 avril au Nouveau Casino. Il ne faut pas la rater. Le 30 novembre, elle sera à Aubevoye et le 18 décembre à Lens.
Merci beaucoup, Flavia. Merci d'être venu nous voir en vrai. Antoine ?
Tout bon et muito obrigado.
Tout bon. Et dites-moi, vous qui voyagez un petit peu, comme ça, faites-nous rêver un petit peu les endroits où vous vous sentez bien dans le monde, c'est où ?
Depuis quelques années, c'est quand même le Pacifique en général, parce que c'est immense, il y a une grande variété de pays, de cultures, de paysages.
Et si on n'a pas de bateau, donnez-nous des endroits où on peut arriver autrement.
On peut aller, oh ben, c'est pas la peine d'aller très loin, il y a beaucoup de... Moi, les îles par exemple, Longjumeau, oui, je chante à Longjumeau dans 2-3 jours justement. C'est vrai en plus.
Non, mais allez-y, faites-nous rêver et donnez-nous des envies.
Plein d'endroits, mais je veux dire que si on est en France, il y a des endroits merveilleux à tout près. Je connais une île par exemple, une île où on arrive qu'en bateau à rame, et il y a une très jolie maison. Très très jolie maison, et il y a un garçon qui reçoit là-bas trois personnes, trois célébrités, et ils font une émission superbe qui s'appelle La parenthèse inattendue, c'est Frédéric Lopez.
Ça c'est voilà. Sur France 2 à mercredi, tous les mercredis soirs en deuxième partie de soirée. Mais j'étais en train d'écouter et je commençais à prendre des notes. Il y a une île, il y a un type, je me dis voilà, là, on va
être nombreux. C'est où ton île là? C'est à quel endroit?
C'est pour l'instant c'est secret, c'est à une heure de Paris. Allez,
tu sais que moi j'habite sur une île dans Paris, moi, hein. Enfin dans Paris, hein, dans la banlieue de Paris là. Ce qui fait que même quand je suis là à Paris, je vois les canards, les bateaux qui passent, les péniches et tout.
Bon, vous n'avez pas répondu à ma question. Donnez-nous deux, trois pays comme ça qui font envie, où on a envie d'aller se promener, où on se sent bien.
Bon, l'île de Groix déjà. Ouais. Les Tuamotu.
D'accord.
Tuamotu, c'est un peu loin. Le Brésil, j'adore le Brésil.
Brésil,
oui, dans l'océan Indien, il y a des choses. Bon, les Seychelles, c'est bien. La Réunion, c'est spectaculaire. Mais il y a tellement d'endroits. Une petite île peu connue. L'île, il y a Maurice, on connaît, mais l'île Rodrigue, qui est au bout de, après, qui appartient à l'île Maurice aussi. Et puis il y a tellement d'endroits qu'il faut que vous me disiez qu'est-ce que vous cherchez. Et puis après, j'ai un site internet, je le dis très vite, antoine.tv, où il y a plein d'informations sur tous les pays. Donc vous pourrez y aller trouver des tas d'extraits de vidéos et des tas de détails sur tous ces pays.
Antoine.tv, si vous voulez vous évader, mesdames, messieurs. Alors Antoine, on va écouter quelqu'un avec qui j'espère que vous allez vous sentir bien, parce que ça dépend de son humeur, mesdames, messieurs. C'est Walter. Walter.
Oh, merci, merci Frédéric. Non, je me sens très bien. Je suis ravi de retrouver l'ambiance chaleureuse de ce plateau parce que honnêtement, je viens de passer deux jours assez pénibles. D'abord Halloween avant-hier, hein, tous ces enfants dans les rues déguisés en squelettes et en morts-vivants. J'avais l'impression d'être au Darfour. Puis, hier, quelle journée de merde. J'ai entendu dans le métro un type dire. Je vais lui apporter des fleurs et après on va faire l'amour. Une phrase que je préfère nettement entendre à la Saint-Valentin qu'à la Toussaint. Je suis donc heureux de vous retrouver et d'autant plus ravi d'être ici aujourd'hui que j'apprécie énormément le travail de nos deux invités, même s'il y en a un des deux qui nous a quittés. D'un côté, il y avait Laurie
qui nous a quittés aujourd'hui.
Il est mort.
Qui est parti de ce studio.
Et ces fascinants écrits sur les Mormons, des gens particuliers, des gens obsédés par leurs dogmes, qui vivent dans leur bulle, loin des réalités du monde, et qui pratiquent la polygamie, hein, disons-le. Bref, des gens qui nous prouvent que les présidents de la République française n'ont rien inventé. Et de l'autre, Antoine, qui pendant des années nous a fait rêver en parcourant le monde. Et qui revient aujourd'hui avec un livre qui vante notamment les mérites, on l'a dit, de la prostitution. Alors on comprend un petit peu mieux le but de vos voyages, Antoine, hein. Quand je pense que pendant tout ce temps on croyait que vous faisiez ça pour la beauté des paysages, alors qu'en fait vous êtes juste organisé un bon gros tour des bordels du monde. Je vous taquine,
non,
Antoine.
Ça serait une idée à suivre pour montrer que dans beaucoup de pays, il y a des conditions beaucoup moins dignes pour les personnes qui exercent ce métier. Je vous laisse continuer.
C'est un débat sérieux. Alors, pour essayer de faire justement avancer la discussion sereinement, posons-nous sans dogmatisme la vraie question. Si on légalisait la prostitution, qu'est-ce que ça changerait pour les protagonistes essentiels et souvent les principales victimes? Je parle bien évidemment des clients. Oui, le client, cet homme si décrié et si critiqué, sans qui, ne l'oublions pas, les prostituées seraient au chômage. Le client, cet homme qui économise jour après jour quelques euros sur son maigre salaire et fait le courageux choix de devoir parfois priver ses enfants de cadeaux et sa femme de sortie au resto pour s'offrir de temps en temps un petit instant de bonheur et qui se retrouve la plupart du temps avec au lit une dame peu souriante qui parle à peine français, bien souvent peu motivée au travail, une ingrate quoi, hein, qui ne semble pas réaliser les efforts consentis par son client ou devrait-on dire plutôt son bienfaiteur. Le client, cet homme que des femmes de mauvaise vie, des putes, hein, n'oublions pas, n'ont absolument aucune gêne à recevoir dans des chambres de bonnes miteuses ou des carillonnettes sordides au confort le plus sommaire échouées au bord d'une route forestière ou d'un rond-point mal éclairé, par exemple sur la 6, sortie 24, juste en face de la zone commerciale des Arpents et du Carrefour, sous l'enseigne lumineuse dont le deuxième R fonctionne Superman, ça clignote tout le temps. Je sais pas si vous avez déjà essayé de baiser... J'espère que cette analyse dépassionnée aura fait avancer le débat et permettra d'améliorer les conditions de travail des prostituées afin que les prochains voyages d'Antoine se passent le mieux possible.
Oui, c'est bien.
Voilà, c'est la fin de cette chronique. Et quoi que vous en ayez pensé, n'oubliez pas que nous sommes sur France Inter et qu'elle a été financée par vos impôts.
Walter, du jeudi au samedi au point virgule. C'est vrai qu'il nous reste, Yann Chouquet, le producteur, va me dire combien de minutes, il nous reste 3 minutes. On a le choix à cet instant précis, soit d'éclaircir cette question de la prostitution, parce qu'on n'a pas eu vraiment de dialogue là-dessus, soit vous nous faites votre bio en 2 minutes.
Non, j'ai juste une petite phrase, c'est que les choses que vous décrivez comme ces camionnettes, etc. et tout, c'est justement toute cette laideur, c'est le produit de la prohibition, c'est le produit de la répression. Et que lorsque on prend sérieusement en main le sujet, eh bien, ces choses-là peuvent disparaître. Et en tout cas, il y a moins de liberté donnée aux mafias. Alors, ma biographie,
allons-y. débattra de ça ailleurs quand il y aura plus de temps. Là, voilà, on a deux minutes. C'est suffisamment long pour raconter toute votre vie, Antoine, sur cette terre.
Alors, d'abord, sur un.
Alors, attendez, parce qu'on va partir en musique. C'est Richard Larnac, je le dis, qui va provoquer et qui va inventer la musique originale de votre vie en improvisation. Vous allez nous proposer 3-4 images de votre existence qui pourraient servir de bande-annonce pour Hollywood, voilà, pour écrire votre film. Allez, c'est parti. L'enfance.
Sur un bateau, j'avais 2-3 ans ou 4 ans, une deuxième fois à 6 ans. Mon père me montre le pont Verrazzano, le Verrazzano Bridge. On arrive à New York. On arrive à New York parce que mon père est affecté à Saint-Pierre-et-Miquelon et il a choisi toujours de prendre les bateaux. Il était ingénieur des travaux publics. Et il voulait toujours prendre les bateaux et on mettait au moins 3-4 semaines à rejoindre son affectation. Donc on était toujours en train de découvrir des endroits. Et là, c'était l'Amérique et c'était la découverte d'un monde tout à fait différent.
Vous ressentez quoi ?
Ben, c'était les grands immeubles, c'était l'immensité des voitures, c'était. On avait une chose, c'était juste après la guerre, la première fois, et le pain en France, c'était pas terrible, on pouvait pas croire. On voyait du pain, on disait, c'est pas du pain, c'est de la brioche. Voilà, c'était toute petite enfance.
Et notre image ?
Beaucoup plus tard, je suis dans un magasin, Paul Becher pour ne pas le nommer, magasin de musique à la Bastille, puis il y a deux grands chevelus.
Vous avez quel âge ?
J'avais 20 ans. Deux grands chevelus qui me disent... Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'achète des harmonicas. Tu fais de la musique? Oui, oui. Ben, tu devrais aller voir un garçon qui s'appelle Christian Fechner, qui est un débutant directeur artistique. J'ai dit, bon, je prends un rendez-vous avec Christian Fechner, et ça a été le début d'une carrière. Je me suis vite séparé de lui parce qu'il n'avait pas les mêmes méthodes que moi, mais ça a démarré toute l'affaire, quoi. Ensuite, beaucoup plus tard, 1969, je suis monté sur un petit voilier pour la première fois, une après-midi, sur la Côte d'Azur, un petit voilier qui était loué dans la maison que j'avais louée, ça m'intéressait pas du tout. Je pars au magasin acheter un livre qui me donnerait la méthode pour faire marcher ce bateau, je savais pas comment avancer ni reculer. Et sur l'étagère, il y avait ce livre, La voile en 10 leçons, et il y avait le récit d'un groupe de navigateurs, un cinéaste, un photographe, un auteur qui avait fait le tour du monde sur une goélette qui s'appelait l'Europe et qui racontait avec les aléas, les hauts et les bas de leur voyage. Et ben, en quelques secondes, ça a changé ma vie et j'ai dit que je partirais naviguer pendant 6 ans. Et puis ça fait 38 ans que ça dure.
Antoine, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir résumé votre existence en 4 images essentielles. Je rappelle qu'Antoine propose un ouvrage où il nous fait réfléchir. Délivrez-nous des dogmes, comme il le dit lui-même. Il a une vision un peu globale des choses, puisque voilà, il est là sans être là, et il nous observe avec bienveillance. Et aux éditions Léo Cher, comment on dit Léo Cher ?
Léo Cher, oui.
Léo Cher. Et puis ce nouvel album après 25 ans sans album, Antoine, Demain loin, avec des très très belles mélodies. Et enfin, tout ça est orchestré par Stanislas, qu'on a beaucoup associé à Calogero, donc très grand mélodiste également. Très très bel album. Ça m'étonnerait pas que ça cartonne, Antoine. Vous êtes au courant ?
Je le souhaite. Merci bien, voilà. Frédéric.
Et on vous voit. Le 14 novembre à l'Olympia.
Merci au public aussi.
Merci au public, merci à mes camarades chroniqueurs. Je rappelle que Sony, c'est tous les mercredis, Sony Tchern est à la rue à 20h.
Maître Lopez. Alors, Frédéric Lopez, je suis bien content que nous nous quittions sur la vie de l'artiste nomade Antoine, parce que ça nous donne un peu du grain d'horizon à moudre pour ce week-end, et merci à lui. Prochainement, nous recevrons Michel Delpech et le sociologue Michel Maffezoli. À lundi.
Lundi, c'est la journée des Michel. Merci à vous. Passez un excellent week-end sur France Inter.